Bonjour, bonjour à vous et bienvenue à Terrasse Interdite, le podcast éphémère qui raconte les galères et anecdotes de voyages vécus en allant à Podren ou autre part. Podren parce que l'idée vient de là. Et ce qui est vachement bien, c'est que je ne suis pas tout seul de nouveau pour ce troisième épisode puisque je suis avec Redscape Music. Je sais pas si on le prononce aussi.
Normalement non, mais bon, écoute, c'est bien de le préciser.
Bah écoute, c'est bien. C'est bien, en plus on a déjà des commentaires en live, tu t'imagines?
Ouais.
D'habitude je troll, mais là c'est vrai, on en a déjà.
Ouais, c'est vrai en plus, ouais. Ouais.
Donc, bienvenue à toi pour le live. Puisque vous pouvez enregistrer, vous pouvez écouter l'enregistrement en live.
Exactement. Alors, bonsoir Kenton.
Comment ça?
Bah bonsoir.
Parce que j'ai compris sans Kenton.
Non, avec Kenton quand même. Ouais. C'est un peu ton format.
Ça va?
Oui, ça va, et toi?
Ouais. Alors, je vais pas faire l'erreur que j'ai fait avec Blast l'autre fois. J'avais oublié de le présenter au début, ce qui est totalement irrespectueux, mais c'était vraiment un oubli de ma part. Et puis, c'est parce que, ouais, tu sais, quand t'as l'habitude de parler avec des gens, bah, t'oublies de les présenter.
Bah oui, parce qu'il y a des gens qui connaissent pas, qui ne connaissent pas forcément.
Voilà. Alors, comment te présenter? Je l'ai déjà dit presque dans ton pseudo. Musique. C'est ce qui te résume, en fait, hein.
C'est ce qui me résume le mieux, effectivement, puisque mes activités sont principalement, plus que la musique en fait, plus le son, sont principalement centrées autour du son, donc le podcast principalement, bah forcément avec toi, j'allais dire forcément,
dans Techcraft, tous les jeudis dès 21h.
Merci, tu le fais tellement bien, de toute façon je peux pas le faire mieux, avec toi le jeudi et puis avec tous les autres qui nous accompagnent dans Techcraft, et puis mes propres podcasts que je produis, je fais du podcast depuis 2011 et donc plusieurs formats à mon actif, et puis je fais aussi de la musique et je suis aussi DJ quand j'ai envie de lâcher prise, et puis voilà, ouais, donc beaucoup d'activités centrées autour du son de manière générale, parce que, voilà, la vidéo c'est un truc que je peux pas franchement saquer, donc voilà, je suis très bien avec le son.
Eh ben écoute, nous ça nous ravit puisque on aime bien t'écouter.
Voilà,
c'est un bon résumé, je trouve.
Oui, ouais. Oui.
J'avais envie de juste passer ça, puisque ça, c'est ce que tu fais dans Techcraft.
Et oui, effectivement, il y a ça, et ça m'a permis de faire effectivement une petite chronique dans Techcraft, qui s'appelle Spacecraft, et c'est toujours cool de faire une petite chronique, hein. Ça dure pas longtemps, mais ça permet, voilà, de passer sur un événement, un truc qui soit, alors au départ qui était plus rattaché à la tech, et puis bah de temps en temps, j'essaie un peu de m'éloigner et puis de vraiment raconter ce qui peut se passer ailleurs que sur Terre.
Oui, et puis ça peut que plaire, puisqu'en plus dans les derniers ça part de trous noirs, hein, donc
Peggy 18. Ouais.
Donc voilà, pas, merci. Hein, voilà. Exactement, t'aurais dû mettre la musique de Pornhub, ça aurait été pareil.
Oui, ça aurait pu, mais ça aurait pu pas toucher les droits.
Hein. Non, ouais.
Alors nous on s'est rencontrés IRL sur un autre festival qui n'est pas Podren, ouais, mais qui est, ouais, MP3 à Paris.
Ouais, exactement. Ouais. En 2017, si ma mémoire est bonne.
C'est probable.
C'était la première édition. Ou 2018. Peut-être plus 2018 que 2017. Parce que 2017, moi j'avais un stand, mais qui était juste à côté du tien d'ailleurs. J'étais juste à côté de toi. Bon, je vous voyais, vous aviez un tas de matos. T'as fait apporter un tas de matos et tout. Je vous connaissais pas.
Oui, parce
pas
qu'on avait
tout.
Un peu on faisait de la démo aussi, on expliquait un peu comment on pouvait, voilà, faire du podcast, et on a gardé
donc
un
c'est
peu de démo.
Donc c'est l'année d'après, c'est en 2018, et je crois que j'ai intégré Techcraft en 2019, de mémoire.
Moi, je suis allé deux fois à MP3 à Paris, et une fois j'ai fait une conférence avec Blast, donc c'est laquelle?
Oui.
C'est que tu m'as, c'était celle où j'ai pas fait ou celle où j'ai fait?
Celle avec la conférence avec Blast, c'est 2018.
Ah bah voilà, donc
c'est 2018.
Ok, très, ouais, bien.
Donc oui, MP3 Paris, j'y suis allé deux fois, et alors soit je te lance sur cette anecdote là.
Mais c'est pour ça que je t'ai tendu cette perche, en fait, parce que tu me disais que toi, Podren, t'avais pas eu de galère vu que t'habites à côté.
Oh bah non, j'habite à côté, donc forcément.
Mais que pour aller à MP3 Paris, t'en as eu, donc ça me permet justement de te dire, bah c'est parti pour ta première.
C'est parti. Alors c'est rattaché à MP3 Paris, mais ça s'est pas vraiment déroulé à MP3 Paris. C'était en 2017. Donc je pars de chez moi. Je crois qu'il est 5h du matin. À l'époque j'ai une Peugeot 407 berline, moteur classique, 110 chevaux. Enfin voilà, rien de bien méchant.
La voiture de papa, quoi.
Ouais, la voiture de papa, hein, clairement. et je fais la route jusqu'à Paris. Je crois que j'arrive dans très rapidement dans les bouchons. C'était le samedi, je dois arriver sur les coups de... Alors j'arrive en retard, en plus j'avais un stand. Donc j'avais le stand des Abyssales à l'époque, donc mon podcast sur la musique électronique. Et donc j'arrive complètement à moitié à la bourre. Je crois qu'il devait être 9h30, un truc comme ça. Alors j'étais parti depuis 4-5h du matin de chez moi. J'ai à peu près... environ 4-5 heures, donc il devait être 10 heures du matin. Donc j'ai à peu près 4-5 heures de voyage par l'autoroute, puisqu'il y a une autoroute qui relie la Bretagne à Paris, pour aller jusqu'à Paris. Et donc la journée se passe, donc j'installe mon matos et tout ça. Je sais plus où est-ce que j'avais garé ma voiture. Et toujours est-il que ça devait pas être dans un bon endroit, puisque je me souviens que j'ai eu une petite... un petit truc sur le pare-brise, tu sais, en dessous du...
Mais dessous du...
Ah bah voilà, parce que bah quand tu viens de la province et que tu découvres Paris, évidemment, tu te gares là où tu peux trouver de la place, mais bon, bah parfois, tu oublies de payer aussi, ce qui est un peu con de ma part, parce que du coup, je me suis retrouvé avec une petite amende, je me souviens plus du prix, j'ai dû la payer très très rapidement après, pour éviter les ennuis. Et quand j'ai repris ma voiture, donc on était dans une espèce de petit bar juste à côté de l'endroit où se tenait le festival. Donc c'était à la fin de la journée, hein, il était 18h20-30, un truc comme ça. Et donc on devait aller à un restaurant qui était pas du tout dans le même coin, qui était situé à plus de 20 minutes en voiture dans Paris. Je ne sais pas du tout l'arrondissement, je suis nul en géographie parisienne, mais je sais que c'était assez loin. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la voiture que je possédais à l'époque, c'était une voiture à problème. C'est-à-dire que j'avais déjà eu multiples problèmes. J'avais des problèmes notamment au niveau du FAP, tu sais, c'est le filtre à particules, que j'avais démonté moi-même et que j'avais déjà nettoyé. J'avais des problèmes au niveau du turbo, dont la durite de retour d'huile avait une fâcheuse tendance à me foutre de l'huile partout sur le moteur. Enfin, cette bagnole-là, c'était une catastrophe. Hein. Je la possédais depuis... Ça faisait pile poil un an. Non, ça faisait 6 mois que je l'avais. Ça faisait 6 mois, parce que je l'avais acheté en décembre 2016. Donc déjà, tu vois, ça commençait bien, quoi. Et donc, je vais pour prendre la voiture. J'embarque avec moi dans la voiture Karine, justement, qui était là pour le premier épisode. Et on salue Karine. Et la voiture fait du bruit. Mais genre, beaucoup trop de bruit.
Pas normal, quoi.
Non, pas normal. T'as le moteur, mais tu sens que quand tu passes les vitesses, et quand tu appuies sur la pédale d'embrayage, il y a un truc qui se passe, et tu sais que ça sent pas bon.
Confiance, elle est partie loin à ce moment-là.
Oh oui, très très loin. Parce que bon, je suis pas trop mauvais en mécanique, donc je sais à peu près repérer quand il y a du bruit et savoir... Donc je sais à ce moment-là que... bruit à l'embrayage, sur certaines vitesses.
Carnage au virage, quoi.
Ouais. Très clairement, je sens que le retour en Bretagne, il va être très compliqué, parce que je devais retourner le soir même en Bretagne. Donc, on traverse Paris avec Karine. On pose la voiture, donc sous, je me souviens, c'était un parking souterrain. Je sais plus ce que je dis à Karine, je teste un peu, je débraye, je... il y a vraiment un truc qui me chiffonne, quoi. Elle fait trop de bruit. À l'arrêt, elle faisait pas plus de bruit que ça. Par contre, clairement, dès que je débrayais, c'était foutu, quoi. Donc voilà, on est au restaurant, on finit par repartir, et puis bah moi je dis au revoir à tout le monde, et puis bah je finis par quitter la capitale en pas du tout en confiance, en me disant bah c'est clair et net que ça va pas le faire, quoi. Et bah je rentre d'une traite jusqu'en Bretagne, 5 heures de route toujours par l'autoroute. Ça se passe bien. Bon, je rentre chez moi, voilà, je me dis, bah, je verrai ça le lendemain. Le lendemain, je reprends la voiture, plus de bruit. Bon, bah, il faisait très chaud le jour-là. Bon, je dis, c'est peut-être la chaleur, les pièces travaillent, bon, c'est logique. 3 semaines s'écoulent, et au début du mois de juillet, ça devait être début juillet, mi-juillet, je prends ma voiture pour aller au travail, puisque à l'époque, le télétravail était très très loin, et on ne parlait pas du tout de ça. Et... oui, non, c'est un truc qu'il faut oublier. Je travaillais sur Rennes à l'époque, et j'habitais à 70 km de mon lieu de travail. Donc voilà, il fallait se taper la route. J'ai toujours fait beaucoup de routes pour aller au travail, bon, plus aujourd'hui, mais à l'époque, j'en faisais énormément. Et donc je vais au travail et le bruit se remet à mais vraiment mais là il y a vraiment comme une pièce qui se brinque-balle là-dedans quoi. Bon. Très bien, je suis sur la 4 voies, j'approche de Rennes. Bon, c'est les vacances d'été donc Rennes est pas trop embouteillé le matin. Et là d'un coup, j'ai le moteur qui s'emballe, mais littéralement, ça fait et là je vois la vitesse décrocher de la 5e passer au point mort. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, je réessaye de raccrocher la 5e. Il y avait que 5 vitesses sur cette voiture-là. Je réessaye de raccrocher la 5e. Impossible. Elle voulait plus accrocher. Le levier, je pouvais accrocher jusqu'en 4e. Il n'y avait pas de problème. 1ère, 2ème, 3ème, 4ème. La 5e. En fait, on entendait comme un roulement, en fait, qui essayait de frotter contre un autre roulement, quoi. Mais il n'y avait pas d'accroche. Rien du tout. Donc voilà, très bien. Donc le levier de vitesse décroché à plus de 110 km/h sur la 4 voies. Mais ça, c'était la première chose qui m'est arrivée. Seconde chose, donc tant bien que mal, je vais jusqu'à Rennes, je me gare, tout ça, hop, je fais ma journée de travail et je reprends la voiture. Il pleuvait à torrent à ce moment-là. Je sors du parking, je mets la première et là,
fou, c'est le drame.
C'est le drame. La pédale dans le fond, d'embrayage dans le fond, terminé. Voilà. Donc la boîte dans le sac et l'embrayage dans le sac. Voilà. Allez, bonsoir. À plus tard. À plus, bye bye, comme tu dis.
Oui,
voilà.
C'est ça. Ouais.
C'est incroyable. C'est-à-dire que les deux événements qui, alors je l'ai su qu'après, n'étaient pas du tout reliés. En fait, ben il se trouvait que les deux ont lâché. Enfin, le même jour, il y a eu des. Enfin, il y a eu l'embrayage qui a totalement lâché et le comment dire le la boîte de vitesse dont il manquait une vitesse. Bon.
Ah oui, carrément quoi.
Ouais, bah ouais, la 5e, si tu veux, elle a accroché.
Je pensais que tu l'avais raccroché entre-temps, mais...
Non. Une fois qu'elle était... Voilà, tu t'avais beau essayer de la tenir, en fait, le pignon de 5e ne voulait plus, si tu veux. Donc bon, bah, il est 18h et quelques, donc j'appelle l'assistance, on me la remorque et tout le bordel, le diagnostic, et bam, la facture, 1 200 € pour l'embrayage complet. Et en plus, là-dessus, c'est du volant moteur bimasse, donc un volant moteur qui ne tient absolument pas. Je décide de le remplacer par un monomasse. Et tout ça, et je dis rien pour la boîte. Je dis rien pour la boîte parce que je savais que sur ces voitures-là, ils ont une fâcheuse tendance à avoir la 5e qui décroche assez facilement. C'est un petit boulon en fait. C'est juste un petit boulon qui se décroche. Ah. Donc je me suis dit bon, je vais voir ça avec mon père. Mon père étant garagiste, bah, je vais voir ça avec mon père quoi. Et effectivement, on décroche le carter de la boîte et on voit le boulon qui se balade. Donc bah très bien. On remet le boulon, on fait la vidange de la boîte. Terminé. Ok, voilà. Donc voilà. Ça m'a coûté quand même 1200 balles, hein, cette connerie.
Ah oui.
Enfin, 1200 balles l'embrayage, mais ça m'a coûté le carter. Non, je l'ai eu gratuitement, le carter. Bah, faut pas trop le dire, mais à une certaine époque, j'avais des pièces quand même assez facilement, vu que mon père était garagiste. Bon, ouais, je peux le dire parce qu'il y a personne, je sais que personne de mon entourage n'écoute spécifiquement, donc ça va. Mais effectivement, à cette époque-là, j'avais des pièces, je pouvais avoir des pièces gratuites, donc le carter d'occasion, voilà, au lieu de le payer 50 balles, j'ai rien payé du tout. Et bah, la main-d'œuvre, c'est nous qui l'avons fait, donc voilà. Donc on va dire que ça, plus de peur que de mal, quoi. Parce que un garagiste peu scrupuleux aurait très bien pu dire, ah bah, on change le tout, quoi. On change la boîte de vitesse avec l'embrayage, le volant moteur et tout le bordel, et voilà. Alors, heureusement, bah, ça m'est quand même pas arrivé pendant la route, cette connerie, parce que, bon, j'ose même pas imaginer la galère que ça aurait été si ça me serait arrivé sur Paris ou entre les deux, entre Paris et la Bretagne. Parce que, littéralement, une vitesse qui décroche ou une pédale qui, pouf, dans le fond, c'est impressionnant, on sait pas ce qui se passe quoi. Donc c'est plus de peur que de mal, donc ouais, tout va bien, à part le portefeuille qui lui a un peu souffert quand même.
Ah oui, tu m'étonnes, il a dû prendre une petite claque quand même.
Ouais, il a pris une petite claque. Ouais. Mais ça m'a pas soigné, ceci dit, Kenton, puisque j'ai repris une deuxième 407 break, dont je viens de changer l'intégralité de l'embrayage, plus là, cette fois-ci, de la boîte de vitesse. Et là, j'en ai eu pour 2 600 €. Donc...
Non, mais tu rajoutes une voiture juste pour ce prix-là, quoi.
Effectivement, à ce prix-là, normalement, non, je l'ai réparé, mais parce que j'ai envie de finir le moteur et tout le bordel, mais c'est un enfer, ce modèle-là, sur les embrayages et sur les boîtes de vitesse, quoi. Mais j'aurais dû être prévenu, hein, j'ai toujours roulé en Peugeot. à part une fois où j'ai eu une Laguna, mais j'ai toujours roulé en Peugeot et j'ai toujours eu quelques petits soucis avec l'embrayage. C'est pas des pièces très solides sur les Peugeot. Sinon, de manière générale, ça, globalement, ça va quoi. 306, j'ai lâché une 306 à 425 000 km quand même.
Donc, ah oui, c'est pas mal.
Non, mais c'est de la voiture très très solide. Là, la mienne que j'ai là actuellement, pas loin de 280 000. Et la 407 que j'avais avant, je l'ai lâché à 387 000. Donc, c'est pas des voitures, c'est des voitures qui fonctionnent réellement bien. Après, bah, elles se dégradent beaucoup dans le temps parce que c'est pas des pièces qui sont faites, qui sont faites pour, quoi. Donc, voilà cette aventure, donc, de MP3 à Paris. J'y suis retourné l'année d'après en me disant, putain, j'espère qu'il va rien m'arriver. Il m'est rien arrivé. Mais ça soigne des voyages au long cours où tu te dis ça peut tomber en panne à tout moment pour tout et n'importe quoi.
Bah oui, clairement. Ouais.
Donc voilà.
Mais écoute, très bien. Sacrée galère. Mais bon, ça va, pas de blessé, pas de grosse panne. Et puis,
Non. En plus, c'était à Rennes en plus que je suis tombé en panne. Donc ça allait quoi. J'étais qu'à 70 km de chez moi.
Du coup, ça rentre dans le thème de l'émission, c'est bien.
Oui, voilà. C'est ça. Exactement.
Ben écoute, moi je vais t'en raconter une aussi alors.
Allez, vas-y.
Et comme tu m'as parlé, parce que moi, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, j'ai une petite liste de côté que des fois je fais grossir quand ça me vient, mais je sais jamais laquelle je vais dire au moment où je commence l'épisode. Je vais plutôt choisir en fonction
de ce que tu avises, quoi.
Voilà, en fonction de ce que la première anecdote suggère. Mais tu as dit un mot magique qui m'a fait tilt et qui me fait sélectionner mon histoire. C'est la première fois que je me suis fait escorter par des gendarmes sur une dizaine de kilomètres et ça c'était quand même fun. Je tease.
D'accord.
Escorter pas genre on va te mettre en prison, escorter comme
un président. Non, escorter ouais. Bon. Avec les gyrophares tout le cinéma quoi.
Exactement. Tu as dit le mot magique, t'as dit FAP. Donc tu comprendras après pourquoi.
OK.
Donc faut savoir que j'ai reçu une Seat Ibiza 3 ans 5000 km, ma grand-mère qui me l'a donné. Bon, quand on te dit ça, j'avais une berline un peu plus ancienne, mais quand on me dit tu veux une voiture neuve, généralement, tu dis pas non, bah, je préfère ma plus vieille berline, hein.
Oui. Bon. C'était la XM, la vieille berline, ou?
Non, c'était une Toledo.
Non, c'était, d'accord.
C'était Toledo.
Okay. Ah oui, ok, je vois.
Qui était très bien, que j'adorais, j'ai adoré cette voiture, mais voilà. Donc, quand on te dit tu vas avoir une voiture quasi neuve pour rien, généralement,
ouais,
tu dis pas non,
pas,
en fait.
Ah, hein, non,
tu
non,
te
non,
dis
non.
Bon, même si je la garde quelques temps et après je la vends, mais tu la prends. Bon.
Ouais. Je suis d'accord.
Et, faut savoir que je roule pas énormément, en fait. Voire même pas beaucoup, puisque même avec un contrat d'assurance à 8000 km par an, on me rend de l'argent encore. Donc,
Ah oui, donc oui. Tu sais, clairement, tu bouges pas, quoi.
Voilà, je roule pas beaucoup. Ah ouais. Dans ma ville, il y a tout ce qu'il faut aux alentours. Mon boulot, bah, j'habite très très près. Et, bon, maintenant un peu plus parce que j'ai des antennes qui sont un peu plus loin, mais. À cette époque-là, je roulais vraiment pas beaucoup. C'est-à-dire que il faut savoir que la dernière année où j'avais conduit la Toledo, j'ai fait le calcul en partant en vacances, donc en incluant 3 pleins, d'accord, j'avais fait 8 pleins dans l'année.
Ça te coûte vraiment pas cher.
Voilà, c'est ça. Mais ça me coûte plus cher en entretien qu'en service que ça rend quasiment.
Ah bah oui, si c'est un diesel, surtout si c'est un diesel. Mais t'es loin de mes 40 000 km. Alors moins aujourd'hui puisque je suis en télétravail, mais t'es quand même loin de mes 40 000 km que je faisais en record à l'époque sans être. Mais tu sais, sans être commercial, mais juste en habitant super loin de son taf.
Ouais, ça va
et
vite.
Puis,
hein, ouais.
Et puis je sais pas, c'est con, mais on aimait beaucoup bouger à l'époque. Et bah voilà, ça t'accumule les kilomètres et puis bah tu finis l'année quand tu fais tes impôts, puis tu te dis ah ouais, quand même, quand tu regardes la somme que tu déduis en frais de kilométrique réel, tu dis waouh, ok, ça te fait carrément passer d'une 30 à position tellement tu fais de kilomètres pour juste aller au boulot, quoi.
Donc, ouais, bon, en tout cas, moi c'est pas mon cas, donc je conduis peu. Donc voilà, là les bases sont posées et on comprendra plus tard pourquoi je pose ces bases. Chose exceptionnelle, je dois partir loin. Alors par contre, je ne me souviens plus où j'étais. Mais je sais que j'avais au moins 7, 8, 9 heures de route à faire dans la journée. D'accord. Je devais partir le matin, donc c'est pas impossible que ça soit un premier pas de Rennes, hein, que je suis parti tout seul en voiture ou à Paris pour un. Enfin, non, Paris, c'était. J'ai roulé plus que ça. Donc, c'était peut-être un Toulouse, un 27h24, je sais pas. Bref. En tout cas, je suis parti loin ce jour-là. Et je pars, et puis au bout de. quand même bien 200-300 km, puisque je ne sais plus où je suis, je reconnais plus le nom des villes, suivant le GPS, je m'en fous, hein, du nom des villes. Sur l'autoroute, 130, régulateur, la voiture commence à tousser, à avoir des petites saccades, tu vois, quand tu roules comme ça, qu'elle commence à tu dis, oula, putain, qu'est-ce qui se passe?
Tout fait, quoi.
Voilà, le machin, et puis d'un coup, commence à y avoir une fumée noire derrière d'une usine à charbon, qui commençait à allumer ses fours, tu vois.
Ah, ok.
Fumée noire au point que des gens étant derrière moi se sont mis à doubler en me klaxonnant, tu vois.
Ouais.
Je me suis dit, bon, là, ça pue du... C'est pas très bon, quoi.
Ça
c'est vraiment
luc,
pas très
mais violent, ouais.
Voilà.
Okay.
Mais je vois que 2 kilomètres plus loin, et je vois qu'il y a une aire d'autoroute. Je me dis, bon, on va quand même tenter de faire les 2 kilomètres plutôt que de me mettre sur la bande d'arrêt d'urgence et risquer ma vie injustement, tu vois. Enfin, ce serait dommage. Et puis, effectivement, hein, je vois dans mon rétro que derrière moi, il y a l'équivalent d'une locomotive à charbon qui est passée. C'est-à-dire qu'il y a une grande ligne de fumée noire derrière, quoi.
Enfin, on te voit à 3 kilomètres, quoi. On te situe, quoi.
C'est ça. Et moi, je vois encore au loin les voitures qui laissent la distance ou ceux qui me doublent en klaxonnant. Et puis, au loin, je vois encore des gyrophares et tout, mais je tilte pas, je fais pas attention, toi. Mmh. Moi, je sors donc sur mon aire d'autoroute et puis je me gare et première chose que je fais, c'est que je j'ouvre le capot, je vois qu'il y a rien de spécial, mais par contre. Je trouve qu'il y a une odeur qui vient de l'arrière. En ouvrant le coffre, je trouve qu'il y a une odeur de cramé qui vient du coffre. Un truc monumental, tu vois. Je me dis, là, il y a un souci, quoi, tu vois.
Ouais, comme si quelque chose avait frotté ou...
Non, brûlé, hein, carrément brûlé.
Brûlé
pour moi,
carrément, ouais,
ah, pour moi, c'était du, c'était une odeur de plastique brûlé, un truc dégueulasse, immonde, voilà, quoi. Alors, bien sûr, le coffre ouvert, je commence à sortir les affaires. Vlatipa qu'il y a 2 motos de gendarmes et une voiture de gendarmes qui arrivent et qui se mettent juste à côté de moi et tout, qui me disent bonjour monsieur, s'il vous plaît, machin, et qui commencent à me dire qu'est-ce que vous faites là. Alors sur le coup, je dis je dis pas que j'ai un problème parce que je me dis ils vont m'immobiliser le véhicule, tu vois.
Ouais.
Et comme il voit que j'ai le coffre ouvert, il me dit est-ce que vous transportez des choses illégales, est-ce qu'on peut regarder dans votre coffre et tout.
Oui, bien sûr, un corps.
Voilà, donc du coup je comprends que en fait ils me prennent plutôt pour un délinquant que pour quelqu'un qui cache une panne.
Ouais.
Donc je dis écoutez non mais faut que je vous explique je lui explique ce que je viens de raconter là, tu vois. Et il me dit ah ben voilà, c'est vous, ça fait longtemps qu'on voit cette fumée noire devant nous et on s'est dit on va essayer de retrouver qui c'est parce que là cette personne va tomber en panne, quoi.
Tu m'étonnes.
Donc imagine-toi.
Belle déduction de leur part, hein.
C'est ça. Alors imagine-toi qu'il y a un mec qui faisait partie de la voiture, qui en profite, bah bien sûr, pour faire le tour de mon véhicule, de vérifier mes assurances, mes machins, parce qu'il reste
pour
quand même.
Bah, oui.
Il contrôle ma plaque auprès du central, je sais pas quoi, pendant que deux autres les motards sont en train de regarder avec moi. Un a vite regardé d'un coup d'œil dans le coffre, il a vu une valise, il a dit ah mais vous partez en vacances, je lui explique oui bah je pars là, je sais plus où, je lui explique quoi, et puis il dit ok, et puis il me dit mais ça sent le cramé, et c'est là que je lui dis bah ouais c'est ça le problème, je comprends pas ce qu'il y a. Imagine-toi quand même qu'un des gendarmes enlève son casque, se met quand même à 4 pattes sur le sol pour regarder dessous avec moi pour voir ce qu'il peut y avoir, quoi.
Ouais.
C'est ça devient surréaliste. Le premier truc, c'est ils se méfient, ils comprennent ma détresse et les mecs commencent à m'aider. D'où l'admiration que j'ai pour les gendarmes, puisque je te le dis parce que d'autres fois ça m'est déjà arrivé des trucs similaires. Les flics n'en auraient rien à foutre, ils se barreraient, tu vois.
Mais, ouais, mais les gendarmes non.
Voilà, là ils sentent qu'il y a quelque chose qui va pas pour moi et ils ont presque l'empathie, tu vois, et les mecs commencent à regarder avec moi, on ouvre le capot, on regarde dedans, il me dit non, tout a l'air d'aller. Bon, et effectivement, on arrive à comprendre qu'il y a peut-être un problème d'odeur qui vient même d'un pneu, tu vois. Alors, il me dit, vous avez peut-être un pneu qui doit être bloqué, un frein qui est serré, j'en sais rien, ça fait forcer le moteur. On essaie plein d'hypothèses, mais rien n'y fait.
Est-ce que la voiture est tournée toujours ou tu pouvais la démarrer? Il n'y avait pas de bruit suspect?
Aucun bruit, okay. Aucun truc spécial à part qu'elle avait toussé, que la fumée était noire, aucun voyant, rien du tout, tu vois. Et là, il me dit, écoutez, qu'est-ce que vous allez faire? Je dis, écoutez, moi, je crois que je vais aller à un garage, quoi. Hein, je vais aller au premier garage prévu.
Ouais.
Il dit, écoutez, par contre, nous, on a un peu peur, on ne va pas vous laisser partir comme ça. Surtout vu la fumée que vous faites derrière, on va mettre la voiture de gendarme derrière et nous, on sera à gauche et à droite pour vous entourer, en fait.
Non, c'est terrible.
Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce délire, quoi? Tu vois? D'une gentillesse déjà de base terrible, mais en plus les mecs ont tellement peur pour moi, ou ils se méfiaient peut-être quand même un peu, j'en sais rien.
Ouais, je sais pas, ouais.
Il m'a dit, partez, on vous entoure et on vous accompagne jusqu'à la prochaine sortie, et puis là on vous laissera, quoi.
Il te manquait juste des petits fanions sur le capot.
Mais c'est ça, et du coup, effectivement, je me lance sur l'autoroute, la bagnole qui me suit derrière, les motards, un à gauche, un devant, avec les gyros, mais pas la sirène, mais juste les gyros, tu vois.
Ouais, ouais,
okay. En gros, qui entoure ma voiture, plus personne ne pouvait doubler, hein. J'étais entouré par les gendarmes, quoi.
Ouais.
Et effectivement, la voiture recommence à tousser, à fumer et tout, et la prochaine sortie devait être au moins à 10, je sais pas, une bonne paire de kilomètres, quoi. C'était pas tout de suite à côté, tu vois.
Ah ouais.
Et donc, ils me suivent, et puis d'un coup, la voiture s'arrête de faire de la fumée, s'arrête de tousser, et revient en mode normal, tu vois.
Ah.
Et là, les gendarmes, le motard me fait signe de baisser la fenêtre en roulant, quand même, hein, à 130 sur l'autoroute.
Ouais.
Et il me dit, écoutez, je crois que ça a l'air d'aller, on va peut-être vous laisser, mais sortez quand même à la prochaine par sécurité.
Ouais.
Mais je lui dis, ok, pas de problème. Et là, donc ils partent sans aucun souci. Et là, je sors à la prochaine. Et je me dis, en fait, y a plus rien. Moi, je suis un peu con, tu vois. J'ai pas été au garage. Je me suis dit, je reprends la route et je verrai une fois arrivé sur place, tu vois. S'il y a plus rien, si jamais ça m'arrive, je m'arrêterai de nouveau. Mais là, il y a l'air d'avoir plus rien, donc je vais reprendre la route.
T'avais une alerte au tableau de bord?
Non, que dalle, rien du tout.
Que dalle, ouais.
Rien du
d'accord,
tout.
Okay.
Mais attends, tu sauras à la fin ce que c'est. Tu vas rigoler, quoi.
Ouais.
Et donc,
je suspecte déjà.
Je sors de l'autoroute, il y a encore la douane qui est en train de contrôler un véhicule et tout, machin. Et je fais le tour du premier rond-point, qui est juste en bas de la sortie d'autoroute, et je veux me diriger vers l'entrée de nouveau d'autoroute. Sauf que le mec de la douane, qui m'a vu sur le côté, il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, lui, il sort et il veut rentrer. Donc forcément, il me met sur le côté, et me disent, monsieur, machin, tout ça, qu'est-ce que... Alors, je lui explique et tout, il trouve ça louche. Je lui dis juste que j'ai eu un problème. Je lui dis pas que j'ai été escorté sur le moment, tu vois. Et je lui dis, donc je lui explique ça. Et puis il me dit, écoutez, c'est quand même bizarre. Ils étaient en train de démonter une Audi, mais ils étaient au moins une dizaine. Hein. Et donc il y avait quelques-uns qui avaient rien à faire. Il me dit, on va vider votre véhicule, on va regarder, quoi. Donc là, eux, ils étaient carrément suspicieux à mort de ma.
Ah oui, c'est pas les mêmes, par contre.
Non, non, c'était. C'était mais c'était toujours des gendarmes mais qui je sais pas un truc de la douane, je sais plus ce que c'est exactement, enfin bref. Et donc je commence à vider mon coffre et tout, je me fous tout par terre, et puis moi j'ai un bordel toujours dans mon coffre parce que j'ai toujours un truc pour gonfler, un truc pour virer pour la batterie, un truc pour un truc pour ça, des sachets de protection, enfin j'ai 10 000 trucs dont je commence à vider et tout. Et là je lui dis, écoutez, je vous explique quand même, et je lui explique le truc, je lui dis que j'étais escorté et tout, et là il y en a un qui s'éloigne et qui prend sa radio et qui il dit, j'entends juste encore le nom de ma plaque, et il s'éloigne, tu vois. Bon, je me dis, ok, c'est cool, ils vont me faire chier, je le sens bien, je sais pas pourquoi. Et là il me dit texto, mais vous auriez dû me dire que c'était avec nos collègues que vous étiez. Je dis, moi je suis pas là pour voilà quoi. Il dit, ça va. Maintenant que vous avez commencé, continuez quand même à vider le coffre. On va quand même terminer le contrôle, quoi. C'est bon, putain, tu peux arrêter de faire chier. Et là, on entend juste quelqu'un qui arrive dans le rond-point, tu vois, du truc. Une grosse, je me souviendrai toujours, un truc énorme, une grosse Audi blanche, un SUV monstrueux.
Ouais.
Et qui, à la vue de la douane, se met à accélérer comme un dégénéré.
Ouais,
et là, évidemment, les gendarmes en 30 secondes chrono, j'ai entendu on y va. Ils sont tous rentrés dans les bagnoles, même le mec avec l'autre Audi, une autre plus classique, c'était aussi un SUV, mais une Audi plus classique, s'est retrouvé là avec son coffre par terre, moi mon coffre par terre, et les mecs se sont barrés pour prendre...
Ils t'ont laissé en plan, quoi, littéralement.
Ah ouais, mais ils sont tous partis, tous. Là, c'est clair que le mec qui a vu les douanes et qui s'est mis à accélérer, il était trop con, il aurait dû juste passer tranquillou et il aurait attisé la curiosité de personne. Mais là, sa réaction a fait qu'on a compris qu'il y avait un truc, quoi. Et donc effectivement, je suis remballé mon coffre et tout. Et j'ai repris ma petite autoroute comme ça. Et voilà, pas que 15 km plus loin, j'ai vu sur la bande d'arrêt d'urgence, l'Audi SUV entouré par les gars de la douane. Et juste en passant, j'ai vu que le mec pointait quand même son arme sur le chauffeur, quoi.
Ah ouais. Donc c'était que... un go fast à mon avis, un truc comme ça.
Pas, hein. Ouais,
il y a de fortes chances quoi.
Peut-être.
Mais, bizarre quand même que le mec soit sorti de l'autoroute et c'est un peu. Mais c'est fort possible pardon que c'était un go fast.
Oui. Et j'ai oublié un élément, c'est que au moment où je lui explique ce qui m'est arrivé machin et tout, juste après qu'il m'ait dit mais il fallait me dire que vous étiez avec mes collègues et tout, il me dit mais qu'est-ce que vous avez eu? Et je lui explique. Je lui dis fumée noire machin. Et il me dit bah l'odeur elle venait du pneu gauche, c'est ça? Je dis oui, comment vous savez? Il me dit mais c'est pas votre pneu, c'est votre pot d'échappement. Je dis quoi? J'ai un problème de pot d'échappement. Il me dit non, laissez-moi deviner, vous roulez pas beaucoup vous. Je dis bah non. Il me dit c'est un diesel.
Bah
oui. Il me dit mais c'est le décrassage de votre pot, c'est normal. Il me dit là c'est la première distance longue que vous avez fait depuis longtemps, c'est ça? Je dis bah ouais, je crois bien. Il dit c'est ça, c'est juste ça, vous inquiétez pas, votre pot il s'est mis en mode décrassage parce que vous avez été longtemps sur l'autoroute, le calculateur a lancé le décrassage du pot et comme ça fait très longtemps à mon avis qu'il a pas dû se mettre en route, ça a fait des grosses fumées noires
et du coup comme la voiture s'est mise en sécurité.
C'est pas que c'est mise en sécurité, c'est que ça a étouffé en fait les gaz de sortie. Mmh. Il y avait tellement de fumée à sortir que ça que ça empêchait correctement les gaz de sortir. Il me dit là vous allez rouler, vous roulez en quatrième plutôt qu'en cinquième sur 30-40 km, vous allez voir ça va être réglé.
Ouais. Donc effectivement, à plus de 3000 tours minutes. Ouais.
Voilà, c'est ça. Et quand j'étais parti, effectivement, j'ai fait ça. J'ai eu un peu de noir qui sortait, mais j'avais plus trop de secousses dans le moteur et c'était réglé. Alors l'histoire se finit là, mais il faut savoir que il y a moins d'un an ou il y a un peu plus d'un an maintenant, il m'est arrivé exactement la même chose, sauf que la voiture s'est carrément mise en sécu tellement qu'elle était encrassée sur l'autoroute. J'ai pu aller sur une aire de repos ils ont dû faire un décrassage avec une machine carrément pour
qu'elle
était trop encrassée quoi.
Pour l'origine du ta voiture est équipée du FAP. Pour l'origine du FAP. Et effectivement, c'est un mécanisme qui est sur les voitures qui sont équipées de FAP où normalement tous les 700 à 1000 km en fait ton FAP il lance le calculateur lance ce qu'ils appellent une régénération, ce qui se produit, c'est qu'il y a une injection de carburant plus forte que d'habitude, ça aide en fait à brûler les crasses du FAP. Et donc, effectivement, à ce moment-là, il est fort possible que ça sorte noir. Sauf que ce mécanisme-là, parfois, il est complètement pété. Donc, le tableau de bord te renvoie l'information, attention, FAP en défaut, ce genre de choses-là. Donc oui, il faut accélérer en quatrième. 3000-3500 tours minutes. Bon, quand vous avez une vieille voiture, c'est peut-être pas trop le truc à faire. Ou une voiture avec une courroie de distribution qui a à faire, c'est peut-être pas le bon plan. Et en général, effectivement, il sort toutes les crasses qui peut arriver. Alors, la petite information qu'il faut savoir, c'est que parfois même le dégivrage de la lunette arrière se met en fonctionnement, se met en marche parce que ça consomme tellement d'énergie.
D'accord.
Et vous voyez sur votre tableau de bord, maintenant, il y a les suivis, hein, de consommation, tout ça. Ben, la consommation, si vous avez l'habitude de suivre du regard ce truc-là, la consommation est double, voire triple, en fait, parce que ça consomme énormément. Et on l'entend très bien parce que quand on éteint la voiture, si jamais elle est toujours sur ce process de régène, les ventilateurs du radiateur, on les entend tourner, même une fois le moteur coupé. Alors je sais pas si aujourd'hui c'est encore ça. Non, mais je sais que dans les tout premiers FAP, ceux qui ont commencé à être vendus chez Peugeot notamment, aux alentours de 2002-2003, quand la technologie a été introduite en grande série sur les Peugeot, puisque c'était les toutes premières qui avaient ce filtre à particules en grande série, c'est ce qu'il fallait faire. Donc à mon avis, c'est un truc qui a dû continuer. Et sinon, oui, avec le calculateur, tu sais, tu branches leur espèce d'interface là, et puis tu peux forcer en fait à froid au démarrage, enfin au ralenti, tu peux forcer. Par contre, ça tire sur le moteur comme ça.
Ah oui,
pas,
oui, je me doute. Ouais,
quoi, c'est affreux quoi. Donc ouais. Mais oui, le FAP, c'est pas. C'était quoi comme voiture que t'avais? Tu me disais, c'est Atibiza.
C'est Atibiza. Ouais, mais j'ai encore le problème ce week-end. Hein. Je suis allé sur Paris et j'ai de nouveau ce problème de l'âge carrément des voyants qui sont allumés, enfin des pertes de puissance, et apparemment c'est parce que effectivement tout s'encrasse trop, donc faut trouver un moyen de décrasser tout ce véhicule.
Bah, en fait c'est très con, mais un diesel, on dit souvent qu'un diesel c'est son pour que un diesel te coûte pas trop cher, c'est il faut faire 25 000 km, c'est la limite de rentabilité du diesel, là où le diesel va commencer en fait à être
plus trop de coûter
effectivement, sauf que si tu fais moins de kilomètres, imaginons par exemple que tu fasses des toutes petites distances, je sais pas moi, pour aller au boulot, il te faut 7 kilomètres pour aller au boulot. Le truc, c'est que tu démarres ton moteur, même si tu le laisses tourner, chauffer, ce que fait quasiment plus personne aujourd'hui, hein, voilà, tu peux d'un coup de clé démarrer et puis partir, ton moteur il va partir parce que ça monte très vite en température. Ce qu'il faut savoir, c'est que le FAP, lui, il faut une température de fonctionnement. Si cette température de fonctionnement là n'est pas respectée, il va accumuler les crasses. Et donc du coup, quand tu vas solliciter et je sais pas, tu vas faire un trajet plus long, du coup ton FAP il va du coup monter en température, et c'est à ce moment-là que tu vas avoir les crasses qui vont sortir derrière le pot, parce que t'as une température. Mais le fait en fait de faire des petites distances du coup va faire vieillir en fait prématurément ton FAP. Et c'est ça qui faisait que les FAP, en fait, cassaient très souvent sur les premières générations, parce que ils accumulaient tellement de crasse que à 60 000 km, il était pas rare d'avoir un FAP qui était... D'ailleurs, les tout premiers FAP, c'était 80 000 km, sachant que le machin, c'est 700 balles pour le remplacer. Voilà. ça fait un peu mal. Voilà, au derrière, c'est pas tip top, quoi. Donc après, ils ont amélioré le truc, je crois que c'est 240 000 ou 10 ans de mémoire aujourd'hui. C'est large, surtout pour changer les voitures assez souvent. Mais ouais, si tu fais moins de 25 000 par an, faut mieux passer sur de l'essence. Tu seras peut-être un peu plus tranquille que le diesel qui a ce fait, qui est plus fait pour les gens
pour
qui
les grosses distances. Ouais.
Ouais, c'est ça.
Bon, exactement. Voilà, en tout cas, c'était ma petite histoire. La fois où je me suis fait escorter par les gendarmes, c'était quand même sympa, quoi. Ça, il faut
avouer. C'est clair. C'est clair, j'avoue. Tu sais, on pourrait se faire des autant d'anecdotes que possible, mais juste en passant comme ça, il y en a une qui m'est venue, puis après on va passer sur l'autre grosse. Mais je rentrais de boîte ce jour-là. C'était un samedi soir, 4h du matin. J'étais avec ma petite Peugeot 205 dont on va reparler juste après. J'étais avec ma petite Peugeot 205, et à l'époque, il m'arrivait souvent une connerie, que tout le monde va rigoler, c'est la panne d'essence. C'est-à-dire que j'avais une jauge, en fait, qui était un tout petit peu pas précise, et qui m'informait pas vraiment quand elle, et d'un coup, tu veux, elle est tombée dans la réserve.
Ah ouais. Merde.
Ouais, voilà, ouais. Donc elle était, mais vraiment pas précise. C'est-à-dire qu'il restait encore un trait. Et puis tu sais, c'était les jauges mécaniques, hein. C'était pas les jauges électriques d'aujourd'hui. Donc les jauges mécaniques, c'était un peu quand la voiture, en fait, si elle était en pente, bah t'avais beaucoup de carburant. Si elle était, sur un autre angle, bah t'en avais quasiment plus, quoi. Donc j'arrive dans ma ville, dans la ville où j'habitais à l'époque, chez mes parents. Donc j'avais 19 ans, un truc comme ça. J'arrive juste à l'entrée, et ce qu'il faut savoir, c'est que j'habitais à l'extérieur de cette ville-là, donc il fallait que je parcours toute la ville. Et puis là, je vois le voyant de carburant faible s'allumer en orange, là, le petit voyant orange.
Ouais, ouais, le truc qui dit 13 en général, 50,
ouais,
100.
Ouais, 50 km. Ah non, quand je voyais ce voyant-là, c'était vraiment pas bon. Ah bah, ça a pas loupé. C'est-à-dire que je passe un premier feu rouge, je monte une espèce de rue qui est menée sur la cathédrale de la ville en question. Et là, moteur éteint. Voilà, terminé, fini.
Bon. Ah ouais.
Ouais, bon, c'était une 205, donc ça veut dire qu'il n'y avait pas d'assistance de direction assistée avec la donc même si la voiture s'éteignait, il y avait rien qui, enfin ça, je veux dire ça coinçait pas comme ça pourrait être aujourd'hui. Donc j'arrive à me garer avec mon élan, si tu veux. Donc je sors du véhicule, et là une patrouille de flics, enfin de gendarmes qui passe. Bon bah très bien, il s'arrête parce qu'il faut un jeune avec un AO derrière en plus. Il s'arrête, voilà. Bonsoir monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? Bah, j'ai dit, je suis en panne d'essence, j'ai une jauge qui m'indique très mal. Par chance, j'ai pas bu ce soir-là. Par chance, vraiment. Parce que je sais que, à cette époque-là, j'étais pas très sérieux avec ça. Et que clairement, j'aurais pu me faire pincer 10 milliards de fois. Mais par chance, ce soir-là, littéralement, je n'avais pas bu. Donc, je fais pas profil bas ni quoi que ce soit. J'ai dit, ok, bon, bah. Ils me disent, on va la garer. Donc, ils m'aident à pousser la voiture sur un lieu de parking. Donc, très gentil, très sympathique et tout ça. Ils me disent, vous habitez où? Bah, j'ai dit, j'habite à 3 km à l'extérieur de la ville. Donc, voilà, écoutez, je vais y aller, quoi. Et ils me disent, ok, très bien, faites attention à vous, bonne soirée. Ils s'éloignent. Et puis moi, sur le coup, tu sais, j'ai pas pensé à leur demander, quoi. Ils s'éloignent, il y avait un rond-point plus loin, je les vois faire demi-tour, ils reviennent vers moi, je dis, tiens, ils ont oublié quelque chose, et puis ça se voit, j'étais sobre et tout ça, enfin, je veux dire, il y a même pas eu de contrôle d'alcoolémie ni quoi que ce soit. Vous voulez pas qu'on vous ramène, monsieur ? Ah bah, je dis, ça serait bien sympathique à vous, parce que bon, bon je vous avoue que bon, 3 kilomètres, à se farder tout seul dans le noir, sans gilet, sans rien, sans gilet, tu sais, de bande réfléchissante,
ouais, bah, ouais.
La merde, quoi. Bon, bah, grimper, quoi.
Voilà. Sympa.
On a fait la discussion pendant 3 kilomètres, c'était des gendarmes qui venaient d'une autre ville et qui faisaient des patrouilles parce qu'ils avaient pas assez de... Franchement, nickel. Et j'ai rien eu à... Enfin, au contraire, c'était super sympa. Je les ai beaucoup remerciés. Et donc ils arrivent devant chez moi. Et le gendarme me regarde et regarde mes papiers. Il me rend mes papiers parce qu'il les avait pris juste pour identifier, enfin juste pour regarder, c'est la carte d'identité. Il me dit votre nom me dit quelque chose. Vous avez pas quelqu'un qui est garagiste ? Bah j'ai si, mon père. Ah bah c'est lui qui nous refait nos voitures.
Ah bah voilà.
Bon voilà, parce que il se trouvait qu'effectivement à cette époque-là mon père faisait les voitures de gendarmes du coin, parce que bon, il y avait pas de policiers, c'était que des gendarmes. Et puis bah vous me dites, je sais plus comment il s'appelait le gars, bah vous dites que je vous ai ramené tout ça, il me connaît tout ça. Puis ok, bah très bien, je rentre chez moi, je vais me coucher, pas de problème. Puis le lendemain je me réveille, puis je vois mon père et tout ça, j'ai dit, c'est pas qui m'a ramené hier, bah non, gendarme. Ah bon, pourquoi tu t'es fait arrêter ? Non, on va juste devoir par contre aller là-bas parce que la 205 elle est à côté de la cathédrale, figure-toi que je suis tombé en panne de carburant. Ah, je me fais à moitié avoiner. Ouais, mais je t'avais déjà dit nanani nanana le carburant. Bah j'y vais. Bon bah écoute, c'est comme ça, quand t'es jeune con
oui,
quoi.
Bah oui.
Écoute, voilà, c'est comme marrant, ça. Quoi. Voilà quoi. Mais bon voilà, pour dire que les gendarmes j'ai jamais eu de problème moi particulier avec eux, et clairement à chaque fois c'était en tout cas pour cette fois-là, parce que j'en ai d'autres anecdotes, mais en tout cas pour cette fois-là c'était très sympathique. Vraiment, la voiture était garée, elle était toujours là le lendemain, et j'ai pu récupérer ma voiture, on a mis du carburant, et puis en plus à cette époque-là c'était des poires, tu sais, pour réamorcer le carburant, c'était pas des machins électriques comme aujourd'hui où tu peux plus rien faire, c'était des poires. Donc la voiture pouvait redémarrer. Donc ouais, non, c'était cool, c'était sympa quoi, vraiment de voir des gens serviables comme ça. Bon, bah tu t'y attends pas quoi, parce que bah, quand t'es jeune, t'as un peu la flip quand même de voir les gendarmes et tout.
Oui,
ça,
bah,
hein,
oui.
Faut dire ce qu'il y a. J'avais un peu cette flip là, ouais. Donc voilà.
Bah très bien. T'avais une deuxième grosse, c'est ça aussi ?
Oui, voilà, du coup j'avais la... ça me faisait penser à ça. Je il y a des années de... Alors, toujours avec la Peugeot 205, il y a des années de ça, donc je devais avoir aussi d'à peu près le même âge, je crois 19 ans, un truc comme ça, donc avec le AO derrière. Bon, j'étais pas très sérieux au volant, je faisais quand même pas mal le con, ce qui change quand même radicalement d'aujourd'hui, mais je faisais vraiment le con et j'étais pas vraiment sérieux, j'avais déjà eu en plus un premier accident avec ma première voiture. Donc j'étais pas un exemple à suivre. Et il se trouve que voilà, quand t'es jeune, t'es con et tu te fâches avec tes parents très souvent. Ce qui est arrivé arriva et je finis par me fâcher avec mes parents qui, si jamais un jour ils posent ses oreilles sur ce podcast, je les salue et voilà, j'étais jeune et con. Hein. Je prends mes affaires et je me tire avec la voiture et avec la 205. Et à l'époque, donc, j'avais des grands-parents qui habitaient du côté de Paris, de l'autre côté de Paris, en Seine-et-Marne, pas très loin du sud de l'Aisne. Je sais pas si ça te dit.
Oh la géographie, je suis très mauvais.
Picardie, Château Thierry, 50, enfin ouais, Château Thierry, non, ça te dit rien du tout ?
Non, du tout.
Bon, bref, c'est plus ou moins dans l'est de la France, enfin, c'est un tout petit peu comme plus proche de Paris. Donc, je prends la voiture. Et puis, je crois que je m'arrête voir un pote, et puis je lui dis, bah, je vais partir à Paris. Sauf qu'à l'époque, on est en 2008, les smartphones, ça n'existait pas comme aujourd'hui. Donc, il n'y avait pas de GPS, pas de suivi du trafic. Enfin, si, il devait y avoir quand même les GPS, mais il n'y avait pas de suivi de trafic. Tu sais, j'avais
c'est les GPS externes aussi.
Ouais, oui.
Tu pouvais acheter un petit boîtier que tu reliais en Bluetooth, je m'en souviens de ça. J'en avais un.
Oui, effectivement, t'as ça, ouais. Mais moi, en l'occurrence, j'avais un LG Beauty. Je sais pas si tu vois quel téléphone c'est. C'était un tactile, mais un tactile avec un stylet. Et tu sais, l'écran, c'était un capacitatif. Donc, tu vois, quand t'appuyais dessus, t'avais le doigt qui s'enfonçait. Donc, c'était bien avant les écrans tactiles d'aujourd'hui où t'as du
verre. Spécialisé avec un capteur derrière pour la photo, je suis en train de voir.
Le Beauty, ouais, non mais c'était pas dégueulasse comme téléphone. Je me rappelle, j'avais cassé j'avais gagné de l'argent, tu sais, pendant l'été, et puis j'avais littéralement cassé ma tirelire, si tu veux, j'habite encore chez mes parents, pour m'acheter le téléphone, quoi. Non, c'est vraiment le téléphone, je l'ai gardé en plus un bon moment, quoi. Je crois qu'il faisait peut-être 3G, ouais. Je crois que je me foutais de la gueule des gens qui avaient justement un iPhone à cause de ça. Je crois qu'il faisait 3G, il me semble. Je suis pas tout à fait sûr de ce que j'avance. J'ai peut-être eu un autre téléphone après. Bref. Donc voilà, il y avait pas de GPS et tout ça, et je dis à mon pote, bah je pense que je vais partir à Paris. Il me dit, mais t'es malade, t'es fou, machin. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus d'être très con à cette époque-là, j'étais aussi très dépensier. Donc j'avais une carte à l'époque qui débitait tout, mais vraiment tout. C'est-à-dire que pff, je la mettais et pouf, elle s'en fichait de savoir s'il y avait des sous sur le compte, quoi. Et à 4h de l'après-midi, j'étais donc du côté, alors pour situer très rapidement et pour pas trop situer l'endroit où je suis exactement, voilà, du côté de Saint-Malo, donc en Bretagne toujours, puisque je suis originaire de ce coin-là, je me dis, il est 4h de l'après-midi, hop, je pars chez mes grands-parents, donc de l'autre côté de Paris, en Seine-et-Marne, à Meaux exactement, dans le nord de la Seine-et-Marne.
Ah oui, Meaux, je vois où c'est.
Voilà, et je prends la voiture, il est 4h de l'après-midi, je trace. Et le seul truc que j'avais dans la voiture pour, entre guillemets, m'accompagner, c'était une carte routière. Voilà, c'est tout ce que j'avais. Une carte routière, à l'époque, c'était que j'aimais bien, c'était le format, tu sais, en espèce d'atlas, là, de 400 et quelques pages, où les cartes sont découpées en tranches. C'est pas une carte, tu sais, où tu déplies.
Ah, puis tu déplies, là, d'accord.
Ouais, non, c'est justement une carte où j'aimais beaucoup acheter ces trucs-là. J'en ai, ils sont encore chez moi, ouais, j'en ai quatre comme ça, où c'est des cartes qui sont très précises, c'était des cartes Michelin, donc les meilleures cartes qui pouvaient exister à l'époque dans le commerce. Alors, il y a les IGN, mais il y avait celle-là aussi. Et pour aller à Paris, quand t'es jamais allé à Paris, tu prends la carte, quoi, et tu essayes de suivre, quoi. Donc, me voilà avec ma petite 2.5 et tout ça, qui, à l'époque, avait quelques petits problèmes de moteur qui chauffait, voilà, mais c'est pas grave, quand t'es jeune et con, tu t'en as rien à branler, donc qu'est-ce que tu fais, tu y vas. Donc les kilomètres défilent, Rennes, et puis de Rennes ensuite, je prends pour la première fois de ma vie l'autoroute direction Paris, donc je crois que c'est la 11 et la 28 de mémoire, la 28 et la 11, voilà, je trace, quoi, voilà, je suis avec la carte, et j'arrive donc aux alentours du péage de Saint-Arnoult, donc en Yvelines, donc à l'entrée de la région parisienne, qui est le péage qui accueille les gens qui viennent de Bretagne, donc de l'autoroute A11. Et je paye, donc encore une fois la carte elle bronche pas, je savais que j'étais débiteur sur le compte, mais bronche pas, paf, je continue. J'arrive aux alentours de 19h, un truc comme ça, aux alentours de la Francilienne, donc la voie rapide qui traverse la région parisienne. Je prends la Francilienne, je me perds, je crois, une fois, en ne suivant pas bien les indications, parce que si tu veux, quand t'as une carte routière et pas un GPS, tu te suis, tu fies vraiment au pancarte qu'il y a devant toi, si tu veux, t'es pas du tout... Personne te dit qu'il faut aller là. Je m'arrête manger, je sais même pas, je crois que ça devait être un McDo, un truc comme ça. Et donc je littéralement, à ce moment-là, je fais beaucoup plus de kilomètres que prévu, puisque au lieu de rattraper le nord de la Seine-et-Marne, je pars direction sud de la Seine-et-Marne, Melun. Donc Melun dans le sud de la Seine-et-Marne, et de Melun, j'arrive à voir le panneau Meaux, voilà, donc j'arrive à raccrocher Meaux, tant bien que mal, et donc j'arrive, il était 9h du soir, 9h30 du soir. Je frappe à la porte de chez mes grands-parents et mes grands-parents, tout surprise, qu'est-ce que tu fous là, machin. Écoute, voilà, j'ai décidé de partir chez mes parents, j'en avais marre. Voilà, bref, je vous raconte pas le reste parce que c'est pas très intéressant. Et donc quelques jours plus tard, je me dis, ah, mais c'est bien, mais je suis parti avec quelques affaires, mais je suis pas parti avec toutes mes affaires. Du coup,
ravitailler.
Eh oui, mais il va surtout falloir que je revienne en Bretagne pour aller chercher 2-3 trucs. Allez, c'est reparti. On fait la route de l'autre sens. J'ai sans doute pris une autre voie, sauf que la voiture, elle a pas dit qu'elle voulait aussi. Et parce qu'elle l'a pas voulu. Et que le trajet, je suis parti le matin à 10h du matin, je suis arrivé littéralement à 2h du matin chez moi, là où j'habitais auparavant. Les premières 3 heures du voyage qui m'emmènent à peu près au milieu, un tiers, entre un tiers et un demi du voyage, se passe plutôt bien. Sauf que la voiture, donc comme je le disais, avait une fâcheuse tendance à chauffer, mais vraiment méchamment. Et surtout là, je commence à sentir un, tu sais, le liquide de refroidissement, quoi.
Ah ouais.
Ça sent pas, ouais, ça sent pas bon du tout. Et je y avait pas de, autant que je me sache, que je sache sur les Peugeot 205, il y avait pas de jauge de température de mémoire. Où il y avait peut-être une jauge, peut-être, je sais plus, je me rappelle plus. Mais en tous les cas, ça sent étrangement. Et donc je m'arrête prudemment quand même. Je me dis voilà, j'ouvre le capot et je vois de la fumée sortir du mais tu sais, de la petite fumée, hein, du bocal de liquide de refroidissement. Bon, je dis bon allez hop, Osef, on s'en fiche, on verra ça plus tard quoi. Je contrôle pas le liquide, je contrôle pas qu'il y en a plus, je contrôle rien du tout. Erreur fatale. Je redémarre, je fais allez une vingtaine de kilomètres à tout casser. Et là, je vois sur les Peugeot, c'est marqué, c'était le cas jusqu'à pas si longtemps que ça sur les Peugeot, un gros stop en rouge. Mais vraiment le stop, quoi. Mais sauf que c'est une Peugeot 205. Donc, quelle marque ça, en vrai, comme il n'y a pas d'électronique? Tu sais, Osef, quoi. Bah, je continue, moi. J'étais loin d'imaginer que mon moteur, il était à sec. Il n'y avait plus une goutte de rien du tout dedans. Bah, à part l'huile, bien sûr. Mais il n'y avait surtout plus de liquide de refroidissement. Ben je continue, et puis à la prochaine sortie, peut-être une vingtaine de kilomètres plus tard, pof, toujours avec le stop allumé, ben la voiture, elle sentait chaud, si tu veux, mais bon, voilà, pas moins, quoi. Je finis par m'arrêter, j'ouvre le capot, ça fume là-dedans comme c'est pas permis, voilà, mais par contre, ça fumait plus blanc, parce que c'est blanc, la fumée du liquide de refroidissement, quand ça chauffe, quand ça part en ébullition, c'est que là, il y en avait quasiment plus. Du liquide de refroidissement.
C'est l'huile qui cramait.
Bah ouais, là c'est le moteur qui commençait à décalaminer, mais sérieusement. Voilà, donc là je dis ça pue la merde. Je suis pas du tout chez moi. Je suis très loin de chez moi. Je suis pas chez mes grands-parents. Je suis pas chez mes parents. Je sais que comment dire, au niveau de ma carte bancaire, c'était devenu très compliqué parce que j'avais une opération que j'avais voulu payer 150 balles quand j'étais sur Paris, qu'elle a pas voulu accepter. Mais bizarrement, elle a accepté les plus petites. Donc je me suis dit là ça pue la merde, j'ai fait de la merde là. Et donc à côté de moi il y avait une famille en fait, et le mec me voit, enfin le père de famille me regarde, tout va bien monsieur? Ah, j'ai dit non, je suis désolé là, enfin vous voyez bien ça fumait, tu vois, bon ok, vous voulez attendez, j'ai du liquide de refroidissement dans la voiture. Génial quoi, super, ok, très bien. Donc il me remplit le bocal de liquide de refroidissement. Il dit bah vous attendez un peu quand même, histoire que la voiture, si tu veux, baisse en température, parce qu'elle était vraiment, le moteur était prêt à exploser quoi, donc baisser en température et tout ça. Je suis resté peut-être une demi-heure. Pof, on remet le capot, et puis le père de famille me dit bah vous gardez par contre le bidon, on sait jamais, et allez vous ravitailler en eau et tout ça. Et je lui dis bah par contre monsieur, je suis désolé mais je crois que ma carte elle est bloquée, est-ce que vous auriez quelques euros? Il me dit bah oui, pas de problème. Donc il vient avec moi super sympa, franchement, surtout que j'avais quand même une tête de branleur à l'époque, bon tu pouvais te méfier quoi, hein, mais vraiment super sympa. Donc il est venu jusque dans le magasin, tu sais, l'espèce de station service qui sert pour l'aire d'autoroute. Donc il me paye un autre bidon, et puis on remplit l'autre bidon avec de la flotte. Il me dit normalement avec ça vous allez où comme ça? Et je lui dis bah je vais du côté de Saint-Malo quoi. Ah ouais, vous êtes pas rendu là. Bon, écoutez, ça tombe bien parce que nous on doit aller sur Rennes, qui est donc sur mon chemin. Ah bah j'ai dit du coup vous avez peut-être possibilité de m'escorter? Elle me dit oui tout à fait, on peut faire le chemin ensemble quoi. Super sympa, franchement, je crois que je devais faire pitié, j'en sais rien. Et je remonte, donc on attend la demi-heure, donc ils avaient un enfant. Donc voilà, écoute, on fait connaissance, on parle, on papote, je raconte en même temps un peu ma détresse du moment, voilà, etc., etc. Donc ça fait une belle pause, si tu veux, Puis comme j'ai une manie, enfin moi j'aime bien parler avec les gens, même à cette époque-là déjà j'étais très sociable, donc j'avais pas de problème si tu veux de communication ni quoi que ce soit, donc voilà. Et donc au bout d'une demi-heure on repart et tout ça. Donc ils me suivent derrière. Moi on file à 110, hein, parce que bon c'était une petite 205, mais elle pouvait aller quand même à 110 km/h sans trop de problème. Et bah évidemment, ce qui arrive, enfin ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire que peut-être une trentaine de kilomètres plus loin, bah de nouveau le gros stop qui s'affiche, donc on s'arrête de nouveau, bah évidemment quasiment plus de, bah elle perdait littéralement du liquide de refroidissement, quoi, littéralement.
Elle le buvait, quoi.
Ah oui, elle le buvait, hein, c'est-à-dire que là il y avait plus de, il y avait plus rien, quoi. Il me dit là, faut si on y arrive, on a de la chance, quoi. Et surtout vous avez du trajet après que nous on se soit arrêté. Bah, j'ai dit oui, je sais bien. Ok, très bien, donc on remet tout ça, on a au total mis quelque chose comme 5 ou 6 fois, je crois, de liquide, jusqu'à Rennes, à cette époque-là, moi, à Rennes, je connaissais personne, donc je pouvais pas m'arrêter quelque part, j'ai connu des amis, mais bien plus tard, donc je pouvais m'arrêter nulle part, ni quoi que ce soit, j'étais condamné à rentrer chez moi, si tu veux, et puis comme j'avais une toute petite assurance de jeune, tu t'imagines bien que j'avais pas l'assistance zéro km, j'avais rien, quoi. Je me suis démerdé, donc je me souviens que eux m'ont lâché une petite commune pas très loin de Rennes, ils habitaient pas tout à fait Rennes, mais une petite commune à côté. Bah moi je me suis mis en fait sur leur parking chez eux et j'ai dormi dans ma voiture. Voilà.
Ah ouais.
Bah oui, pour faire refroidir le moteur.
Pas le choix quoi.
Donc eux après voilà sont repartis. Et donc je reprends la route et je fais le tour de Rennes et puis donc je reprends la 4 voies qui va de Rennes à Saint-Malo. De nouveau rebelote, quoi, il était minuit et quelques, la voiture tient même plus 10 km sans boire littéralement, quoi, sauf que il est minuit, il y a plus rien, j'ai dit bah tant pis, s'il faut qu'elle meure la bagnole, elle va mourir, quoi. Ouais. Effectivement, la voiture, je l'ai terminée. Je l'ai littéralement terminée.
T'as serré le moteur ou quoi?
Ah, bah, le moteur, je l'ai pas serré, mais j'en étais vraiment à la limite de chez limite. De toute façon, la voiture, elle est partie à la casse, quoi. C'était terminé, voilà. J'en ai une troisième 205 après. Donc, je termine mon trajet, ça fume de partout. Enfin, littéralement, le moteur en pouvait plus. Par chance, pour aller de Rennes jusqu'à là où j'habitais à l'époque, il y avait pas que de la 4 voies, il y avait aussi de la route la nationale à 4, enfin nous on appelle ça plutôt départementale en Bretagne, à 90. Donc ça permettait quand même que le moteur hurle pas trop, qu'il soit un peu plus voilà.
Ouais, plus tranquille, quoi.
Voilà, j'en ai mis une dernière fois pas très loin aux abords du château de Combourg, je me souviendrai toujours de cette image, donc Combourg qui est pas très loin de là où j'habitais à l'époque. Pour vous situer, c'est une commune qui est juste qui est au sud de Saint-Malo, qui est célèbre pour son château. Et donc je prends la route jusqu'à chez moi, il me restait à ce moment-là exactement 17 km. Et elle les a forcément bu en l'espace de 5 km, il y avait déjà plus rien du tout. Et j'arrive chez moi, la voiture fait un bruit d'enfer, ça carbute dans tous les sens, ça pétarade, il y a de la fumée. On sent qu'il y a plus rien qui tourne. Le bruit alerte mon père, qui sort en catastrophe. Déjà, il est très surpris de me voir parce qu'il faut savoir que j'étais parti déjà il y a plus d'une semaine.
Mmh, oui.
Et que j'étais en froid avec mes parents parce qu'ils comprenaient pas pourquoi j'étais parti et tout ça. Et là, j'arrive avec une voiture qui est en train de pétarader dans tous les sens. Vous imaginez bien qu'ils ont fait une tête. On l'a retrouvée, quoi. Mais dans quel état on est en train de la retrouver, quoi. Ils voient ma tête que ça va pas du tout, que la voiture elle est en train de partir, quoi. Et je me souviendrai toujours, je sors de la voiture, je vais dans les bras de mon père, en fait, et la voiture s'éteint. Et elle ne redémarrera plus jamais.
Oh merde! Voilà.
Plus jamais la redémarrer. Oh, j'avais totalement niqué le moteur, enfin, il n'y avait plus rien de récupérable. T'imagines que j'ai fait quand même plus de 500 km avec un moteur dans les trois quarts du trajet, il n'y avait pas de flotte dedans, donc c'était la pompe à eau qui était totalement foutue, si tu veux, mais ça suffisait à ce que le liquide de refroidissement en fait parte à volo, quoi, si tu veux. Donc, et la voiture n'a plus jamais redémarré. On l'a foutu à la cage. Je crois qu'elle avait déjà 260 000 et quelques bornes.
Oui,
donc
bon, ça va.
Oui, c'était raisonnable, quoi. C'était plus une voiture que je crois que j'avais dû payer 200 balles à l'époque. Donc c'était pas une énorme perte, quoi. Mais voilà, cette image, je tombe dans les bras de mon père et la voiture s'éteint définitivement.
Elle a rempli sa mission, elle t'a ramené à la maison.
Totalement, totalement. Et
c'est presque poétique, cette fin.
Ah ouais, non, mais complètement. Je m'en souviens encore aujourd'hui parce que souvent, ce que je dis aujourd'hui, c'est que les voyages forment la jeunesse, mais c'est totalement ça. C'est que c'était presque un voyage initiatique. C'était la première fois que je partais avec ma voiture en dehors de la Bretagne, tout seul, avec un compte bancaire qui faisait la gueule comme c'est pas permis, avec juste une carte routière.
Et la voiture t'a fait comprendre qu'il fallait pas partir, quoi.
Bah oui, complètement, complètement.
Et t'as dit, je te ramène à la maison, mais par contre, tu comptes pas sur moi pour repartir.
Bah, je suis repa... Et le truc, c'est que je suis reparti 2 mois plus tard, je suis reparti
Ah
avec
merde.
une autre 205, bon, qui elle, du coup, m'a pas fait faux bond, avec qui j'ai visité, je me suis baladé dans Paris, j'avais même trouvé un boulot sur Paris et tout ça. Donc j'habitais chez mes grands-parents et j'ai visité Paris avec, j'ai fait le con avec toujours à Paris, tout ça. Et cette voiture-là, je crois que je l'ai. Bah, cette voiture-là, je l'ai détruite dans le cul d'une auto-école. Voilà.
Ah
Pour
mince.
la... Et ça a été la fin de mes conneries en voiture. C'est à partir de ce moment-là que,
T'es
bah ça va.
ressaisi.
Ouais, c'est à partir de ce moment-là surtout que j'ai eu quelqu'un dans ma vie, avec qui j'ai partagé de nombreuses années de ma vie, sans aller dans les détails, mais je pense que t'as fait le lien, Kenton. Et c'est à ce moment-là que j'ai arrêté de faire le con. Mais oui, je l'ai éclaté, cette troisième 205, je l'ai éclaté dans l'arrière d'une auto-école. Et je me souviens, je sors de l'auto-école parce que l'autre, ils avaient freiné, tu sais, comme des gros cons devant. Moi, j'étais à 30, j'étais pas. Ouais, mais sauf que je suis rentré dedans, mais
T'as
comme
pas
un.
respecté les distances et voilà.
Si, mais sauf que la voiture elle a glissé parce que à l'époque t'avais pas d'ABS sur les 205,
C'est
donc
vrai.
la voiture elle a glissé et puis elle a fait boum et je suis sorti en furie, j'ai mis un coup de pied dans sa portière, ils étaient prêts à appeler les flics. Enfin, moi c'était les voitures, c'était j'avais une voiture, mais c'était tout pour moi, c'était la liberté, c'était donc voir ma voiture complètement détruite. Bah pour moi c'était une catastrophe si tu veux, et du coup ouais, elle est décédée dans littéralement comme ça. Je me souviendrai toujours de voir la fille qui était au volant de cette auto-école
Il a peut-être
partir.
traumatisé d'ailleurs.
Je l'ai traumatisée, elle est partie en courant quoi, elle est partie, j'ai pas calculé qui était dedans hein. Je veux dire, ça aurait pu être n'importe qui, j'ai pas calculé quoi, mais littéralement elle est partie en courant. Ils ont voulu appeler les flics et puis il se trouvait que en face j'avais eu accident juste en face de là où je bossais à l'époque dans un restaurant. Donc mon patron était sorti, dit non 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 c'est bon, c'est normal, il est comme ça machin. Et puis mon patron il commence à
C'est
moitié en
normal, il n'est
plus.
pas handicapé, vous inquiétez pas.
Non non ouais, c'est exactement ça. Et mon patron plus commence à s'embrouiller avec le mec. Mais oui, mais pourquoi vous avez freiné aussi machin? Ben ouais, mais parce que mon élève elle freinait pas, donc du coup machin ceci cela. Ouais, bah moi j'ai tout vu. Donc mon patron avait tout vu. Et pour lui c'était du 50-50. Sauf que quand tu rentres en arrière de quelqu'un,
Ah bah c'est pas
c'est toi à
50-50,
100.
bah
Ah non,
oui.
c'est toi, c'est à 100%.
Ah oui.
Donc j'ai traîné le malus très longtemps. Surtout que j'étais encore jeune, permis de mémoire. J'ai traîné le malus très très longtemps
Ah
avant
oui.
de récupérer. Ah ouais, avant de récupérer, parce que j'ai tout pris quoi. J'ai littéralement tout pris. Et j'avais cette manie à l'époque de rentrer assez fréquemment dans le cul de d'autres voitures. Je crois que 3 fois. De toute façon, les 3 années de permis probatoire, j'aurais pu me le faire enlever 10 000 fois, ça aurait été pareil quoi. Je suis pas fier de le dire. C'est pour ça que je suis aujourd'hui extrêmement prudent en voiture. Enfin, il y a toujours un moment où tu fais toujours une connerie. Mais je suis très prudent en voiture et je me montre, enfin, surtout avec les enfants que j'ai aujourd'hui, voilà, faut pas faire n'importe quoi. Et j'ai mes 12 points de permis depuis ce temps-là et
Donc c'est bien.
je me suis fait enlever une fois un point pour un excès de vitesse. Donc vraiment rien de. Mais non, non, je suis plus con en voiture. Je sais que ça a failli me coûter la vie. J'ai failli tuer des gens. Voilà, quand tu t'as ça étant jeune, tu. Ok, tu te calmes, tu. Waouh, c'est bon, c'est que de la conduite, pas besoin d'être con comme ça, quoi. Donc
Bah c'est
donc
dommage parce
voilà.
que j'en avais aussi une anecdote là-dessus, mais. Le temps est imparti et non, le
Oui.
temps est fini. Non, je sais plus comment.
Oui,
Voilà.
bah le temps est fini,
Le temps
le temps imparti est
est
terminé.
terminé. Voilà.
Voilà,
Donc
c'est ça.
tu ne la connaîtrais pas pour cet épisode.
Ah, bon, ça sera pour la semaine prochaine alors.
Ben voilà, faudra que tu écoutes les prochains pour
Bon,
entendre ce qui
pas de
s'est passé.
problème.
Mais j'ai aussi une sacrée histoire avec rentrer dans quelqu'un loin de chez moi et voilà, je spoil pas plus.
D'accord, ok.
Mais voilà, c'est pas drôle.
Ok,
Bon
très
ben
bien.
voilà, on touche à sa fin quand même, on va pas dépasser
Ouais.
l'heure parce que, enfin si, on vient de la dépasser, mais
On vient de la dépasser.
on va
Mais
pas faire trop long.
tu savais très bien que je pouvais pas faire 15 minutes, quoi.
Non, 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 je te connais très bien, je te connais très bien. Je te rappelle que c'est avec toi que j'avais mis une date, un temps limite pour ta
Ouais.
chronique, pour ta,
Pour
je permets mon,
Spacecraft.
ouais, bah, pour ta
Ouais, pour
chronique.
Spacecraft. Ouais, pour ma chronique, ouais, c'est ça.
Donc voilà. Mais bon. Bon, c'était sympa en tout cas. Où
Ouais.
est-ce qu'on peut retrouver tes autres anecdotes textuelles sur Twitter, par exemple?
Bah sur Twitter, c'est twitter.com @redscape_music. Tout
Ah mince,
simplement.
il y a le musique avec.
Oui, il y a de musique avec parce que Redscape est déjà pris.
Ah
Donc
mince,
du
parce que
coup.
du coup, j'ai pour habitude de mettre les pseudos sur le live complet et j'ai bah je l'ai pas.
Ah, bah, tu l'as pas mis
ou... J'ai mis Redscape tout court, en fait. Bon, je pense que si on tape ça, on trouvera très facilement.
Oui, on me retrouve assez facilement. Donc j'ai la tête, j'ai la même photo que tu as mis sur le live Twitch, donc ça devrait être assez facilement trouvable.
Oui, parce que je l'ai pris exprès du compte Twitter pour que ce soit plus facile. Donc,
voilà, exactement.
Et puis aussi dans TechCraft, hein, à mes côtés d'ailleurs.
Évidemment, tous les jeudis, dès 21h.
Dès 21h, voilà. Effectivement. Donc à la limite, c'est ce qu'on va faire. Moi, je ne vous dis pas où me retrouver. Venez nous écouter jeudi soir en live dès 21h, ce sera beaucoup mieux.
Exactement.
Et on va finir sur quelque chose que j'ai oublié de mettre au début, comme quoi ça va être un peu le truc qui va être redondant. Je vais chaque fois oublier un truc au début. Mais c'est le générique tout pété.
Ah oui, le générique, tu l'as pas mis, ouais, exact.
Oui, je l'ai oublié parce que j'ai focus sur le fait de te présenter, comme j'avais dit l'autre fois, et du coup, j'ai oublié le générique.
Tu sais, la prochaine fois, fais-toi un conducteur.
Oui, il faut que je me fasse un petit diagramme avec
un petit diagramme, voilà, un petit truc, ouais. Ouais, c'est ça, exactement.
Oui, mais tu vois, pour une fois que j'en ai pas, bah, je suis vite perdu. J'ai besoin d'être structuré, quoi.
Ouais, c'est exactement ça. Bah merci en tout cas pour ton invitation, Kenton. Merci beaucoup.
Je t'en prie. Si tu en as encore d'autres, mets-les de côté, on pourra refaire un deuxième épisode.
Mon Dieu, mon pauvre.
N'hésitez pas. Bah ouais, mets-les de côté. Alors, n'hésitez pas à nous signifier si vous nous écoutez un petit message sur Twitter @Kenton ou @RedscapeMusic et dire si ça vous a plu ou pas. Parce que pour l'instant, on a très peu de retours, donc n'hésitez pas, ça nous fera plaisir. Et puis bah on se dit à jeudi et on se laisse avec le générique tout pété. Ciao ciao.
Ciao.
Best generic ever.